Les frères Karamazov, première partie, livre 4, chapitre 4. Chez les dames Koklakov. Il arriva bientôt chez madame Koklakov, dont la maison, à deux étages et en pierre, était une des plus belles de notre ville. Bien qu'elle habitât plus souvent un domaine situé dans une autre province, ou sa maison de Moscou, elle en possédait une dans notre ville, qui lui venait de sa famille. Au reste, la plus grande de ces trois propriétés se trouvait dans notre district, mais elle n'était encore venue que fort rarement chez nous. Elle accourut à la rencontre d'Alyosha dans le vestibule. « Vous avez reçu ma lettre à propos du nouveau miracle ? » demanda-t-elle nerveusement. « Oui, je l'ai reçue. Vous l'avez fait circuler ? Montrer à tout le monde ? Il a rendu un fils à sa mère ? » « Il mourra sans doute aujourd'hui, » dit Alyosha. « Je le sais. Oh, comme je voudrais parler de tout cela avec vous ou avec un autre. Non, avec vous, avec vous. Et dire que je ne peux pas le voir. Quel dommage. Toute la ville est en émoi. Tout le monde est dans l'attente. À propos, savez-vous que Catherine Ivanovna est en ce moment chez nous ? Ah, l'heureuse rencontre !» s'exclama Alyosha. Elle m'a recommandé d'aller la voir aujourd'hui. Je sais, on m'a raconté en détail ce qui s'est passé hier. Cette scène horrible avec cette créature. C'est tragique, et à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et votre frère Dmitri, quel homme, mon Dieu ! Alexei Fyodorovitch, je m'embrouille. Figurez-vous que votre frère est ici, c'est-à-dire pas ce terrible personnage, mais l'autre. « Ivan, il a un entretien solennel avec Catherine Ivanovna. Si vous saviez ce qui se passe entre eux, c'est affreux, c'est déchirant, c'est invraisemblable. Ils se tourmentent à plaisir, ils le savent, et en tirent une âpre jouissance. Je vous attendais, j'avais soif de vous. Je ne puis supporter cela. Je vais tout vous raconter. Ah, j'allais oublier l'essentiel. Dites-moi. » Pourquoi Lise a-t-elle une crise nerveuse ? Ça l'a prise dès qu'elle a été informée de votre arrivée. Maman, c'est vous qui avez une crise. Ce n'est pas moi. Gazouilla soudain la voix de Lise qui venait de la chambre voisine à travers l'entrebâillement. L'ouverture était toute petite et la voix aiguë, tout à fait comme lorsqu'on a une violente envie de rire et qu'on s'efforce de la réprimer. Alyosha avait remarqué cette fente, par où Lise devait l'examiner de son fauteuil, sans qu'il pût s'en rendre compte. « Tes caprices pourraient bien en effet me donner une crise. Et pourtant, Alexei Fedorovitch, elle a été malade toute la nuit, la fièvre, des gémissements, que sais-je encore. Avec quelle impatience j'ai attendu le jour et l'arrivée du docteur Eisenstub. Il dit qu'il n'y comprend rien, qu'il faut attendre. Quand il vient, il répète toujours la même chose. Dès que vous êtes entrée, elle a poussé un cri et a voulu être transportée dans son ancienne chambre. « Maman, je ne savais pas du tout qu'il allait venir. Ce n'est pas pour l'éviter que j'ai voulu passer chez moi. » « Ce n'est pas vrai, Lise. Julie guettait Alexei Fyodorovitch et a couru t'annoncer son arrivée. « Chère petite maman, voilà qui n'est pas malin de votre part. » Vous feriez mieux de dire à notre cher visiteur qu'il a prouvé son peu d'esprit en se décidant à venir chez nous après la journée d'hier, alors que tout le monde se moque de lui. « Tu vas trop loin, Lise, et je t'assure que je recourrai à des mesures de rigueur. Personne ne se moque de lui. Je suis fort heureuse qu'il soit venu. Il m'est nécessaire, indispensable. Oh, Alexei Fyodorovitch, que je suis malheureuse !» « Qu'avez-vous donc, ma petite maman ?»« Ce qui me tue, Lise, ce sont tes caprices, ton inconstance, ta maladie, cette terrible nuit de fièvre, cet affreux et éternel Eisenstub, enfin, tout, tout. Et puis ce miracle, oh, comme il m'a frappé, remué, cher Alexei Fyodorovitch, et cette tragédie au salon, ou plutôt cette comédie, dites-moi, « Le staré Zosime vivra-t-il jusqu'à demain ? Oh, mon Dieu, que m'arrive-t-il ? Je ferme les yeux à chaque instant et je me dis que tout cela est absurde, absurde. Je vous serais bien obligé, l'interrompit soudain Alyosha, de me donner un petit chiffon pour panser mon doigt qui me fait très mal. Je me suis blessé. Alyosha découvrit son doigt mordu, le mouchoir plein de sang. Madame Koklakov poussa un cri, ferma les yeux. « Mon Dieu, quelle blessure! C'est affreux !» Dès que Lise eut aperçu le doigt d'Alyosha à travers la fente, elle ouvrit la porte toute grande. « Venez! Venez !» dit-elle d'une voix impérieuse. « Maintenant, trêve de bêtises. Mon Dieu, pourquoi êtes-vous resté si longtemps sans rien dire? Il aurait pu perdre tout son sang, maman. Où et comment cela vous est-il arrivé? Avant tout, de l'eau! De l'eau! Il faut laver la blessure, plonger le doigt dans l'eau froide pour faire cesser la douleur et l'y tenir longtemps. Vite, de l'eau, maman, dans un bol! Plus vite, voyons » fit-elle d'un mouvement nerveux. La blessure d'Alyosha la consternait. « Ne faut-il pas envoyer chercher Herzenstube ?» s'écria la mère. « Maman, vous me faites mourir. Votre docteur viendra pour dire qu'il n'y comprend rien. De l'eau, maman, pour l'amour de Dieu. Allez-vous même stimuler Julie, qui s'est attardée je ne sais où. Elle ne peut jamais venir à temps. Plus vite, maman, ou je meurs. » « Mais c'est une bêtise !» s'exclama Alyosha, effrayé de leur émoi. Julie accourut avec de l'eau. Alyosha y trempa son doigt. « Maman, je vous en supplie, apportez de la charpie et de cette eau trouble pour les coupures, comment l'appelle-t-on? Nous en avons. Maman, vous savez où est le flacon? Dans votre chambre à coucher, l'armoire à droite. Il y a un grand flacon et de la charpie. » « Tout de suite, Lise, mais ne crie pas, ne t'énerve pas. Tu vois avec quel courage Alexeï Fiodorovitch supporte sa douleur. Où vous êtes-vous blessée ainsi, Alexeï Fiodorovitch ?» Elle sortit aussitôt. Lise n'attendait que cela. « Avant tout, répondez à ma question, » dit-elle rapidement. « Où avez-vous pu vous blesser ainsi ? Puis nous parlerons d'autre chose. Allez-y. » Alyosha, devinant que le temps était précieux, lui fit un récit exact, bien qu'abrégé, de son étrange rencontre avec les écoliers. Après l'avoir écouté, Lise joignit les mains. « Comment pouvez-vous, et encore dans cet habit, vous commettre avec des gamins ? » s'écria-t-elle d'un ton courroucé, comme si elle avait des droits sur lui. « Après cela, vous n'êtes vous-même qu'un gamin, le plus petit d'entre eux. Pourtant, ne manquez pas de vous informer de ce drôle et racontez-moi tout. Il doit y avoir là un secret. Autre chose maintenant, pouvez-vous, malgré la douleur, parler sensément de bagatelles ? Mais oui, d'ailleurs cela ne me fait plus si mal. C'est parce que votre doigt est dans l'eau. Il faut la changer tout de suite, elle s'échaufferait. Julie, va chercher un morceau de glace à la cave et un nouveau bol d'eau. La voilà partie. J'aborde le sujet. « Mon cher Alexeï Fiodorovitch, veuillez me rendre immédiatement ma lettre. Maman peut rentrer d'une minute à l'autre, et je ne veux pas. »«
Je ne l'ai pas sur moi. »«
Ce n'est pas vrai, vous l'avez. J'étais sûre que vous me feriez cette réponse. J'ai tant regretté toute la nuit cette stupide plaisanterie. Rendez-moi ma lettre à l'instant. Rendez-la moi. »«
Elle est restée chez moi. »«
Vous devez me prendre pour une fillette. » Après la sotte plaisanterie de ma lettre, je vous en demande pardon. Mais rendez-la moi. Si vraiment vous ne l'avez pas sur vous, apportez-la aujourd'hui, sans faute.
Aujourd'hui, c'est impossible, car je retourne au monastère, et je ne viendrai pas vous voir pendant 2 jours, 3, 4 peut-être, parce que le Staré Zosim...
4 jours? Quelle sottise! Écoutez, avez-vous beaucoup ri de moi?
Pas le moins du monde.
« Pourquoi donc ?»«
Parce que je vous ai cru, aveuglément. »«
Vous m'offensez ?»«
Pas du tout. J'ai pensé tout de suite après avoir lu que cela se réaliserait, car dès que le Staré sera mort, il me faudra quitter le monastère. Ensuite, j'achèverai mes études, je passerai mes examens, et après le délai légal, nous nous marierons. Je vous aimerai bien. » Quoique je n'ai pas encore eu le temps d'y songer, j'ai réfléchi que je ne trouverai jamais une femme meilleure que vous, et le staré m'ordonne de me marier. Je suis un monstre. On me roule sur un fauteuil, objecta en riant Lise, les joues empourprées. Je vous roulerai moi-même, mais je suis sûre que d'ici là vous serez rétabli.
Mais vous êtes fou, proféra Lise nerveusement.
Tirer une telle conclusion d'une simple plaisanterie.
Voici maman, peut-être fort à propos.
Maman, comment avez-vous pu rester si longtemps?
Et voilà Julie qui apporte la glace.
Ah, Lise, ne crie pas, je t'en supplie, j'ai la tête rompue. Est-ce ma faute si tu as changé la charpie de place? Cherchez, cherchez, je soupçonne que tu l'as fait exprès.
Je ne pouvais pas deviner qu'il arriverait avec un doigt mordu, sinon je l'aurais peut-être fait exprès.
Ma chère maman, vous commencez à dire des choses fort spirituelles.
Spirituelles, soit, mais de quel sentiment, Lise, à l'égard du doigt d'Alexeï Fiodorovitch et de tout ceci?
Oh, mon cher Alexeï Fiodorovitch, ce ne sont pas les détails qui me tuent, ni un Herzenstub quelconque, mais le tout ensemble, le tout réuni, voilà ce que je ne puis supporter.
En voilà assez sur Herzenstub, maman,
reprit Lise dans un joyeux rire. Donnez-moi vite l'eau et la charpie.
C'est de l'eau blanche, Alexeï Fiodorovitch, le nom me revient, un excellent remède.
Maman, figurez-vous qu'il s'est battu avec des gamins dans la rue et qu'un d'eux l'a mordu.
N'est-il pas lui-même un petit bonhomme? Et peut-il se marier, maman, après cette aventure?
Car figurez-vous qu'il veut se marier.
Le voyez-vous marié?
N'est-ce pas à mourir de rire?
Lise riait de son petit rire nerveux en regardant malicieusement Alyosha.
Que racontes-tu là, Lise? C'est fort déplacé de ta part.
D'autant plus que ce gamin était peut-être enragé.
Ah, oh, maman, comme s'il y avait des enfants enragés.
Et pourquoi pas, Lise? Ce gamin a été mordu par un chien enragé, il l'est devenu lui-même, et il a mordu quelqu'un à son tour.
Comme elle vous a bien pensé, Alexeï Fiodorovitch, je n'aurais jamais su le faire comme ça.
Avez-vous mal?
Très peu.
N'avez-vous pas peur de l'eau? Demanda Lise.
« Assez, Lise. J'ai parlé peut-être trop vite de rage à propos de ce garçon, et tu en conclus Dieu sait quoi.
Catherine Ivanovna vient d'apprendre votre arrivée, Alexeï Fiodorovitch. Elle désire ardemment vous voir. »«
Ah, maman, allez-y seule. Il ne peut pas encore. Il souffre trop. »«
Je ne souffre pas du tout. Je puis très bien y aller, » protesta Alyosha.
« Comment, vous partez? Ah, c'est comme ça. »
« Eh bien, quand j'aurai fini, je reviendrai, et nous pourrons bavarder autant qu'il vous plaira. J'ai hâte de voir Catherine Ivanovna, car je désire rentrer le plus tôt possible au monastère. »«
Maman, emmenez-le vite, Alexeï Fiodorovitch. Ne prenez pas la peine de revenir vers moi après avoir vu Catherine Ivanovna. Allez tout droit à votre monastère. C'est là votre vocation.
Quant à moi, j'ai envie de dormir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. »
Oh, « Lise, tu plaisantes, bien sûr. Cependant, si tu t'endormais pour de bon... »«
Je resterai bien encore 3 minutes, même 5, si vous le voulez, » marmotta Alyosha.
« Emmenez-le donc plus vite, maman. C'est un monstre. »«
Lise, tu as perdu la tête.
Allons-nous-en, Alexeï Fiodorovitch. Elle est par trop capricieuse aujourd'hui. J'ai peur de l'énerver. »«
Oh, quel malheur qu'une femme nerveuse !»
Mais peut-être a-t-elle réellement envie de dormir,
comme votre présence la vit inclinée au sommeil, et que c'est bien.
Maman, que vous parlez gentiment, je vous embrasse pour cela.
Moi de même, Lise.
Écoutez, Alexeï Fiodorovitch, chuchota-t-elle d'un air mystérieux en s'éloignant avec le jeune homme. Je ne veux pas vous influencer, ni soulever le voile. Allez voir vous-même ce qui se passe. C'est terrible. La comédie la plus fantastique qui se puisse rêver. Elle aime votre frère Ivan et tâche de se persuader qu'elle est éprise de Dmitri. C'est affreux. Je vous accompagne. Et si on le veut bien, j'attendrai.
Chapitre 5. Le déchirement au salon. L'entretien au salon était terminé. Catherine Ivanovna, surexcitée,
avait pourtant un air résolu. Lorsqu'Alyosha et Madame Koklakov entrèrent, Ivan Fiodorovitch se levait pour partir. Il était un peu pâle, et son frère le considéra avec inquiétude. Alyosha trouvait maintenant la solution d'une énigme qui le tourmentait depuis quelque temps. À différentes reprises, depuis un mois, on lui avait suggéré que son frère Ivan aimait Catherine Ivanovna, et surtout qu'il était décidé à la souffler à Mitya. Jusqu'alors, cela avait paru monstrueux à Alyosha, tout en l'inquiétant fort. Il aimait ses deux frères et s'effrayait de leur rivalité. Cependant, Dimitri lui avait déclaré la veille qu'il était heureux d'avoir son frère pour rival, que cela lui rendait grand service. En quoi ? Pour se marier avec Rouchenka ? Mais c'était là un parti désespéré. En outre, Alyosha avait cru fermement, jusqu'à la veille au soir, à l'amour passionné et opiniâtre de Catherine Ivanovna pour Dimitri. Il lui semblait qu'elle ne pouvait aimer un homme comme Ivan, mais qu'elle aimait Dimitri tel qu'il était, malgré l'étrangeté d'un pareil amour. Mais durant la scène avec Rouchenka, ses impressions avaient changé. Le mot « déchirement » que venait d'employer Madame Klokakov le troublait, car ce matin même, en s'éveillant à l'aube, il l'avait prononcé deux fois, probablement sous l'impression de ses rêves, car toute la nuit il avait revu cette scène. L'affirmation catégorique de Madame Koklakov, que la jeune fille aimait Ivan, que son amour pour Dmitri n'était qu'un leurre, un amour d'emprunt qu'elle s'infligeait par jeu, par déchirement, sous l'emprise de la reconnaissance, cette affirmation frappait Alyosha. C'est peut-être vrai. Mais alors, quelle était la situation d'Ivan ? Alyosha devinait qu'un caractère comme celui de Catherine Ivanovna avait besoin de dominer. Or, cette domination ne pouvait s'exercer que sur Dmitri et non sur Ivan. Car seul Dmitri pourrait peut-être un jour se soumettre à elle, pour son bonheur. Ce qu'Alyosha désirait même. Ivan en serait incapable. D'ailleurs, cette soumission ne l'eût pas rendu heureux, d'après l'idée qu'Alyosha se faisait de lui. Ces réflexions poursuivaient le jeune homme quand il entra dans le salon. Soudain, une autre idée s'imposa à lui. Et si elle n'aimait ni l'un ni l'autre ? Remarquons qu'Alyosha avait honte de telles pensées, et se les était toujours reprochées, lorsque parfois elles lui étaient venues au cours du dernier mois. « Qu'est-ce que j'entends à l'amour et aux femmes ? Et comment puis-je tirer pareille conclusion ?» se disait-il après chaque conjecture. Cependant, la réflexion s'imposait. Il devinait que cette rivalité était capitale dans la destinée de ses deux frères. « Les reptiles se dévoreront entre eux », avait dit hier Ivan dans son irritation, à propos de leur père et de Dmitri. Ainsi, depuis longtemps peut-être, Dmitri était un reptile à ses yeux. N'était-ce pas depuis qu'il avait fait lui-même la connaissance de Catherine Ivanovna ? Ces paroles lui avaient sans doute échappé involontairement, mais c'était d'autant plus grave. Dans ces conditions, quelle paix pouvait dorénavant régner dans leur famille, alors que surgissaient de nouveaux motifs de haine ? Surtout, qui devait-il plaindre, lui, Alyosha ? Il les aimait également. Mais que souhaitait à chacun d'eux parmi de si redoutables contradictions ? Il y avait où s'égarer dans ce labyrinthe, et le cœur d'Alyosha ne pouvait supporter l'incertitude, car son amour avait toujours un caractère actif. Incapable d'aimer passivement, son affection se traduisait toujours par une aide. Mais pour cela, il fallait avoir un but, savoir clairement ce qui convenait à chacun et les aider en conséquence. Au lieu de but, il ne voyait que confusion et brouillamini. On avait parlé de déchirement. Mais que pouvait-il comprendre, même à ce déchirement ? Non, décidément. Le mot de l'énigme lui échappait. En voyant Alyosha, Catherine Ivanovna dit vivement à Ivan Fiodorovitch qui s'était levé pour partir. « Un instant, je veux avoir l'opinion de votre frère, en qui j'ai pleine confiance.
Catherine Ossipovna, restez aussi, continua-t-elle en s'adressant à Madame Koklakov. Celle-ci s'installa à côté d'Ivan Fiodorovitch et Alyosha en face, près de la jeune fille.
Vous êtes mes amis, les seuls que j'ai au monde,
commença-t-elle d'une voix ardente où tremblaient des larmes de sincère douleur, et qui lui attira de nouveau les sympathies d'Alyosha.
Vous, Alexeï Fiodorovitch, vous avez assisté hier à cette scène terrible. Vous m'avez vu. J'ignore ce que vous avez pensé de moi. Mais je sais que dans les mêmes circonstances, mes paroles et mes gestes seraient identiques. Vous vous souvenez de m'avoir retenu.
En disant cela, elle rougit et ses yeux étincelèrent.
Je vous déclare, Alexeï Fiodorovitch, que je ne sais quel parti prendre. J'ignore si je l'aime maintenant, lui. Il me fait pitié, mais c'est une mauvaise marque d'amour. Si je l'aimais toujours, ce n'est pas de la pitié, mais de la haine que j'éprouverais à présent.
Sa voix tremblait. Des larmes brillaient dans ses cils. Alyosha était ému.
Cette jeune fille est loyale, sincère, pensait-il. Et elle n'aime plus Dmitri.
C'est cela, c'est bien cela, s'exclama Madame Koklakov.
Attendez, chère Catherine Ossipovna, je ne vous ai pas dit l'essentiel, le parti que j'ai pris cette nuit. Je sens que ma résolution est peut-être terrible pour moi, mais je pressens que je n'en changerai à aucun prix. Mon cher et généreux conseiller, mon confident, le meilleur ami que j'ai au monde, Ivan Fiodorovitch, m'approuve entièrement et loue ma résolution.
Oui, je l'approuve, dit Ivan d'une voix basse mais ferme.
Mais je désire qu'Alyosha, excusez-moi de vous appeler ainsi, je désire qu'Alexeï Fiodorovitch me dise maintenant, devant mes deux amis, si j'ai tort ou raison. Je devine que vous, Alyosha, mon cher frère, car vous l'êtes, répétait-elle avec transport en saisissant sa main glacée d'une main brûlante. « Je devine que votre décision, votre approbation me tranquilliseront, malgré mes souffrances. Car après vos paroles, je m'apaiserai et je me résignerai, je le pressens. »
« J'ignore ce que vous allez me demander, » dit Alyosha en rougissant.
« Je sais seulement que je vous aime et que je vous souhaite en ce moment plus de bonheur qu'à moi-même. Mais je n'entends rien de telles affaires. »
se hâta-t-il d'ajouter sans savoir pourquoi.
« L'essentiel dans tout ceci, c'est l'honneur et le devoir, et quelque chose de plus haut qui dépasse peut-être le devoir lui-même. Mon cœur me dicte ce sentiment irrésistible et il m'entraîne. Bref, ma décision est prise. Même s'il épouse cette créature, à qui je ne pourrai jamais pardonner, je ne l'abandonnerai pourtant pas. « Désormais, je ne l'abandonnerai jamais, » dit-elle en proie à une exaltation maladive. « Bien entendu, je n'ai pas l'intention de courir après lui, de lui imposer ma présence, de l'importuner. Oh non, je m'en irai dans une autre ville, n'importe où, mais je ne cesserai pas de m'intéresser à lui. Quand il sera malheureux avec l'autre, et cela ne tardera guère, qu'il vienne à moi, il trouvera une amie. » une sœur seulement, certes, et cela pour la vie, une sœur aimante qui lui aura sacrifié son existence. Je parviendrai, à force de persévérance, à me faire enfin apprécier de lui, à être sa confidente, sans qu'il en rougisse, s'écria-t-elle comme égarée. Je serai son Dieu, à qui il adressera ses prières. C'est le moins qu'ils me doivent pour m'avoir trahi et pour tout ce que j'ai enduré hier à cause de lui. Et il verra que malgré sa trahison, je demeurerai éternellement fidèle à la parole donnée. Je ne serai que le moyen, l'instrument de son bonheur, pour toute sa vie, pour toute sa vie. Voilà ma décision. Ivan Fiodorovitch m'approuve hautement.
Elle étouffait. Peut-être aurait-elle voulu exprimer sa pensée avec plus de dignité, de naturel, mais elle le fit avec trop de précipitation et sans voile. Il y avait dans ses paroles beaucoup d'exubérance juvénile.
Elle reflétait l'irritation de la veille, le besoin de s'enorgueillir. Elle-même s'en rendait compte. Soudain, son visage s'assombrit, son regard devint mauvais. Alyosha s'en aperçut, et la compassion s'éveilla en lui. Son frère ajouta quelques mots.
« C'est, en effet, l'expression de ma pensée. Chez tout autre que vous, cela eût paru de l'outrance. Mais vous avez raison, là où une autre aurait eu tort. Je ne sais comment motiver cela, mais je vous crois tout à fait sincère. Voilà pourquoi vous avez raison. »
« Mais ce n'est que pour un instant. C'est l'effet du ressentiment d'hier !»
ne put s'empêcher de dire avec justesse Madame Koklakov, malgré son désir de ne pas intervenir.
« Eh oui !» fit Ivan avec une sorte d'irritation et visiblement vexé d'avoir été interrompu. « C'est cela. Chez une autre, cet instant ne serait qu'une impression passagère. Mais avec le caractère de Catherine Ivanovna, cela durera toute sa vie. Ce qui pour d'autres ne serait qu'une promesse en l'air sera pour elle un devoir éternel, pénible, maussade peut-être, mais incessant. Et elle se répétera du sentiment de ce devoir accompli. Votre existence, Catherine Ivanovna, se consumera maintenant dans une douloureuse contemplation de votre chagrin et de vos sentiments héroïques. Mais avec le temps, cette souffrance se calmera. Vous vivrez dans la douce contemplation d'un dessein ferme et fier, réalisé une fois pour toutes, désespéré à vrai dire, mais dont vous serez venu à bout. Cet état d'esprit vous procurera enfin la satisfaction la plus complète et vous réconciliera avec tout le reste. » Il s'était exprimé avec une sorte de rancune et sans chercher à dissimuler son intention ironique. « Oh Dieu, que tout cela est faux !»
s'exclama de nouveau Madame Koklakov.
« Alexis Fiodorovitch, parlez, il me tarde de connaître votre opinion !»
dit Catherine Ivanovna en fondant en larmes. Alyosha se leva.
« ce n'est rien !» poursuivit-elle en pleurant. « C'est l'énervement, l'insomnie. Mais avec des amis comme votre frère et vous, je me sens fortifiée. « Car je sais que vous ne m'abandonnerez jamais. »«
Malheureusement, je devrais peut-être partir demain pour Moscou. Vous quittez pour longtemps. Ce voyage est indispensable. »
proféra Ivan Fiodorovitch.
« Demain? Pour Moscou ?»
s'exclama Catherine Ivanovna, le visage crispé.
« Mon Dieu, quel bonheur !»
reprit-elle d'une voix soudain changée, en refoulant ses larmes, dont il ne resta pas trace. Ce changement étonnant, qui frappa fort Alyosha, fut vraiment subit. La malheureuse jeune fille offensée, pleurant, le cœur déchiré, fit place tout à coup à une femme parfaitement maîtresse d'elle-même et de plus satisfaite comme après une joie subite.
« Ce n'est pas votre départ qui me réjouit, bien sûr, »
rectifia-t-elle avec le charmant sourire d'une mondaine. « Un ami tel que vous ne peut le croire. Je suis au contraire très malheureuse que vous me quittiez. » Elle s'élança vers Ivan Fiodorovitch et, lui saisissant les deux mains, les pressa avec chaleur.
« Mais ce qui me réjouit, c'est que vous pourrez maintenant exposer à ma tante et à Agathe ma situation dans toute son horreur. Franchement, avec Agathe, mais en ménageant ma chère tante, comme vous êtes capable de le faire. » « Vous ne pouvez vous figurer combien je me suis torturée hier et ce matin, me demandant comment leur annoncer cette terrible nouvelle. À présent, il me sera plus facile de le faire, car vous serez chez elle en personne pour tout expliquer. Oh, que je suis heureuse! Mais de cela seulement, je vous le répète, vous m'êtes indispensable, assurément. Je cours écrire une lettre, » conclut-elle en faisant un pas pour sortir de la chambre.
« Et Alyosha? Et l'opinion d'Alexei Fiodorovitch que vous désirez si vivement connaître ?»
s'écria Madame Koklakov avec une intonation sarcastique et irritée.
« Je ne l'ai pas oublié !» fit Catherine Ivanovna en s'arrêtant. « Mais pourquoi êtes-vous si malveillante pour moi en un tel moment, Catherine Ossipovna ? »
ajouta-t-elle d'un ton d'amer reproche.
« Je confirme ce que j'ai dit. J'ai besoin de savoir son opinion. » Bien plus, sa décision. Elle sera une loi pour moi, tant j'ai soif de vos paroles, Alexeï Fiodorovitch. Mais qu'avez-vous ?
Je n'aurais jamais cru cela. Je ne peux pas me le figurer, dit Alyosha d'un air affligé.
Quoi donc ?
Comment ? Il part pour Moscou et vous faites exprès de témoigner votre joie. Ensuite, vous expliquez que ce n'est pas son départ qui vous réjouit, que vous le regrettez au contraire, que vous perdez un ami. Mais là encore, vous jouiez la comédie.
La comédie ? Que dites-vous ?
S'exclama Catherine Ivanovna, stupéfaite. Elle rougit, fronça les sourcils.
Quoi que vous affirmiez regretter en lui l'ami, vous lui déclarez carrément que son départ est un bonheur pour vous.
Proféra Alyosha haletant. Il restait debout près de la table.
Que voulez-vous dire ? Je ne comprends pas.
Je ne sais pas moi-même. C'est comme une illumination soudaine. Je sais que j'ai tort de parler, mais je le ferai quand même, poursuivit-il d'une voix tremblante entrecoupée.
Vous n'avez peut-être jamais aimé Dmitri. Lui non plus, sans doute, ne vous aime pas. Il vous estime, voilà tout. Vraiment, je ne sais comment j'ai l'audace, mais il faut bien que quelqu'un dise la vérité, puisque personne ici n'ose le faire.
« Quelle vérité ? » s'écria Catherine Ivanovna avec exaltation.
« La voici, » balbutia Alyosha, prenant son parti comme s'il se précipitait dans le vide. « Envoyez chercher Dmitri. Je le trouverai s'il le faut. Qu'il vienne ici. » Prendre votre main et celle de mon frère Ivan pour les unir. Car vous faites souffrir Ivan uniquement parce que vous l'aimez, et que votre amour pour Dmitri est un douloureux mensonge auquel vous tâchez de croire à tout prix.
Alyosha se tut brusquement.
Vous êtes un jeune fou, entendez-vous ?
Répliqua Catherine Ivanovna, pâle, les lèvres crispées. Ivan Fiodorovitch se leva, le chapeau à la main.
« Tu t'es trompé, mon bon Alyosha, » dit-il avec une expression que son frère ne lui avait jamais vue, une expression de sincérité juvénile, d'irrésistible franchise.
« Jamais Catherine Ivanovna ne m'a aimé. Elle connaît depuis longtemps mon amour pour elle, bien que je ne lui en ai jamais parlé, mais elle n'y a jamais répondu. Je n'ai pas été davantage son ami. » À aucun moment. Sa fierté n'avait pas besoin de mon amitié. Elle me gardait près d'elle pour se venger sur moi des offenses continuelles que lui infligeait Dmitri depuis leur première rencontre, car celle-ci est demeurée dans son cœur, comme une offense. Mon rôle a consisté à l'entendre parler de son amour pour lui. Je pars, enfin. Mais sachez, Catherine Ivanovna, que vous n'aimez en réalité que lui. Et cela en proportion de ses offenses. Voilà ce qui vous déchire. Vous l'aimez tel qu'il est, avec ses torts envers vous. S'il s'amendait, vous l'abandonneriez aussitôt et cesseriez de l'aimer. Mais il vous est nécessaire pour contempler en lui votre fidélité héroïque et lui reprocher sa trahison. Tout cela par orgueil. Vous êtes humilié et abaissé, mais votre fierté est en cause. Je suis trop jeune, je vous aimais trop. Je sais que je n'aurais pas dû vous parler ainsi, qu'il eût été plus digne de ma part de vous quitter simplement. C'eût été moins blessant pour vous. Mais je pars au loin et ne reviendrai jamais. Je ne veux pas respirer cette atmosphère d'outrance. D'ailleurs, je n'ai plus rien à vous dire. C'est tout. Adieu, Catherine Ivanovna. Ne soyez pas fâchée contre moi, car je suis 100 fois plus punie que vous. Puni par le seul fait que je ne vous reverrai plus. Adieu. Je ne veux pas prendre votre main. Vous m'avez fait souffrir trop sciemment pour que je puisse vous pardonner à l'heure actuelle. Plus tard, peut-être, mais pour le moment, je ne veux pas de votre main. Ten tank, tam, pekertrich nicht. Ajouta-t-il avec un sourire contraint, prouvant ainsi qu'il connaissait Schiller par cœur, ce qu'Alyosha eût refusé de croire auparavant. Il sortit, sans même saluer la maîtresse de la maison. Alyosha joignit les mains.
« Ivan ! » lui cria-t-il éperdu. « Reviens, Ivan ! Non, maintenant, il ne reviendra pour rien au monde, s'écria-t-il dans un pressentiment désolé. Mais c'est ma faute, c'est moi qui ai commencé. Yvan a parlé injustement, sous l'empire de la colère. Il faut qu'il revienne, s'exclamait Alyosha, comme déséquilibré. Catherine Ivanovna passa dans une autre pièce. Vous n'avez rien à vous reprocher. Votre conduite est celle d'un ange, murmura au triste Alyosha Madame Koklakov, enthousiasmée. Je ferai tout mon possible pour empêcher Ivan Fiodorovitch de partir. La joie illuminait son visage, à la grande mortification d'Alyosha. Mais Catherine Ivanovna reparut soudain. Elle tenait 2 billets de 100 roubles. « J'ai un grand service à vous demander, Alexeï Fiodorovitch, » commença-t-elle d'une voix calme et égale, comme si rien ne s'était passé. Il y a 8 jours environ, Dmitri Fiodorovitch s'est laissé aller à une action injuste et scandaleuse. Il y a ici un cabaret mal famé, où il rencontra cet officier en retraite, ce capitaine que votre père employait à certaines affaires. Irrité contre ce capitaine, pour un motif quelconque, Dmitri Fiodorovitch le saisit par la barbe et le traîna dans cette posture humiliante jusque dans la rue, où il continua encore longtemps à le houspiller. On dit que le fils de ce malheureux, un jeune écolier, courait à ses côtés en sanglotant, demandait grâce et priait les passants de défendre son père, mais que tout le monde riait. Excusez-moi, Alexeï Fiodorovitch, je ne puis me rappeler sans indignation cette action honteuse, dont seul Dmitri Fiodorovitch est capable lorsqu'il est en proie à la colère et à ses passions. Je ne puis la raconter en détail, cela me fait mal. Je m'embrouille. J'ai pris des renseignements sur ce malheureux et j'ai appris qu'il est fort pauvre. Il s'appelle Sniegiryov. Il s'est rendu coupable d'une faute dans son service, on l'a révoqué. Je ne puis vous donner de détails. Et maintenant, avec sa malheureuse famille, les enfants malades, la femme folle, paraît-il, il est tombé dans une profonde misère. Il habite ici depuis longtemps. Il avait un emploi de copiste qu'il a perdu. J'ai jeté les yeux sur vous. C'est-à-dire, j'ai pensé. Ah, je m'embrouille. Je voulais vous prier, mon cher Alexeï Fiodorovitch, d'aller chez lui, sous un prétexte quelconque, et délicatement, prudemment, comme vous seul en êtes capable. » Alyosha rougit. « De lui remettre ce secours, ces 200 roubles. Il les acceptera certainement. C'est-à-dire, persuadez-le de les accepter. Voyez-vous, ce n'est pas une indemnité pour éviter qu'il porte plainte, car il voulait le faire à ce qu'il paraît, mais simplement une marque de sympathie, le désir de lui venir en aide. « En mon nom, comme fiancée de Dmitri Fiodorovitch, et non au sien. J'y serais bien allée moi-même, mais vous vous y prendrez mieux que moi. Il habite rue du Lac, dans la maison de Madame Kalmikov. Pour l'amour de Dieu, Alexeï Fiodorovitch, faites cela, à présent. Je suis un peu fatiguée. Au revoir. » Elle disparut si rapidement derrière la portière qu'Alyosha n'eut pas le temps de dire un mot. Il aurait voulu demander pardon, s'accuser, dire quelque chose enfin, car son cœur débordait, et il ne pouvait se résoudre à s'éloigner ainsi. Mais Madame Koklakov le prit par le bras et l'emmena. Dans le vestibule, elle l'arrêta une fois de plus. « Elle est fière, elle lutte contre elle-même, mais c'est une nature bonne, charmante, généreuse. » murmura-t-elle à mi-voix. « Oh, comme je l'aime par moments, et que je suis de nouveau contente. Mon cher Alexeï Fiodorovitch, savez-vous que nous toutes, ces 2 tantes, moi et même Lise, nous n'avons qu'un désir depuis 1 mois. Nous la supplions d'abandonner votre favori Dmitri, qui ne l'aime pas du tout, et d'épouser Ivan, cet excellent jeune homme si instruit dont elle est l'idole. Nous avons ourdi un véritable complot, et c'est peut-être la seule raison qui me retienne encore ici. » « Mais elle a pleuré, elle est de nouveau offensée, s'écria Alyosha. « Ne croyez pas aux larmes d'une femme, Alexei Fyodorovitch. Je suis toujours contre les femmes dans ce cas, et du côté des hommes. »
La voix aigrelette de Lise retentit derrière la porte.
« Maman, vous le gâtez !»«
C'est moi qui suis cause de tout. Je suis très coupable !» répéta Alyosha, qui, le visage caché dans ses mains, éprouvait une honte douloureuse de sa sortie.
« Au contraire, vous avez agi comme un ange, comme un ange. Je suis prête à le redire mille fois. »«
Maman, en quoi a-t-il agi comme un ange ?» demanda de nouveau Lise.
« Je me suis imaginé, je ne sais pourquoi, » poursuivit Alyosha, comme s'il n'entendait pas Lise, « qu'elle aimait Ivan, et j'ai lâché cette sottise. Que va-t-il arriver ?»«
De quoi s'agit-il ?» s'exclama Lise. « Maman, vous voulez donc me faire mourir? Je vous interroge et vous ne me répondez pas. »
À ce moment, la femme de chambre accourut. « Catherine Ivanovna se trouve mal. Elle pleure. Elle a une attaque de nerfs. »«
Qu'y a-t-il ? » cria Lise, la voix alarmée. « Maman, c'est moi qui vais avoir une attaque. »
« Lise, pour l'amour de Dieu, ne crie pas. Tu me tues. » « À ton âge, tu ne peux pas tout savoir comme les grandes personnes. À mon retour, je te raconterai ce qu'on peut te dire. »«
Oh, mon Dieu, j'y cours. Une attaque, c'est bon signe, Alexis Fyodorovitch, c'est très bon signe. En pareil cas, je suis toujours contre les femmes, leurs attaques et leurs larmes. Julie, cours dire que j'arrive. Si Ivan Fyodorovitch est parti comme ça, c'est sa faute à elle. Mais il ne partira pas. »
Lise, pour l'amour de Dieu, ne crie pas.
Ce n'est pas toi qui crie, c'est moi. Pardonne à ta mère. Mais je suis enthousiasmée, ravie. Avez-vous remarqué, Alexei Fyodorovitch, comme votre frère est parti d'un air dégagé après lui avoir dit son fait? Un savant universitaire parle avec tant de chaleur, de franchise juvénile, d'inexpérience charmante. Tout cela est adorable. « Tout à fait dans votre genre. »
Et ce vers allemand qu'il a cité.
« Mais je cours, Alexei Fyodorovitch. Dépêchez-vous de faire cette commission et revenez bien vite. Lise, tu n'as besoin de rien. Pour l'amour de Dieu, ne retiens pas Alexei Fyodorovitch. Il va revenir te voir. »
Madame Koklakov s'en alla enfin. Alyosha, avant de sortir, voulut ouvrir la porte de Lise.
« Pour rien au monde, je ne veux vous voir, Alexei Fyodorovitch !» s'écria Lise. « Parlez-moi à travers la porte. Comment êtes-vous devenu un ange? C'est tout ce que je désire savoir. »«
Par mon affreuse bêtise, Lise. Adieu. »«
Voulez-vous bien ne pas partir ainsi ? » cria-t-elle.
« Lise, j'ai un chagrin sérieux. Je reviens tout de suite, mais j'ai un grand, grand chagrin. » Il sortit en courant. Chapitre 6. Le déchirement dans l'isba. Alyosha avait rarement éprouvé un chagrin aussi sérieux. Il était intervenu mal à propos dans une affaire de sentiments.
Que puis-je connaître à ces choses? Ma honte n'est d'ailleurs qu'une punition méritée. Le malheur, c'est que je vais être certainement la cause de nouvelles calamités. Et dire que le staré m'a envoyé pour réconcilier et unir. Est-ce ainsi qu'on unit ?
Il se rappela alors comment il avait uni les mains, et la honte le reprit.
Bien que j'aie agi de bonne foi, il faudra être plus intelligent à l'avenir,
conclut-il, sans même sourire de sa conclusion. La commission de Catherine Ivanovna le conduisait à la rue du Lac. Et son frère habitait précisément dans une ruelle voisine. Alyosha décida de passer d'abord chez lui, à tout hasard, tout en pressentant qu'il ne le trouverait pas à la maison. Il soupçonnait Dmitri de vouloir peut-être se cacher de lui maintenant. Mais il fallait le découvrir à tout prix. Le temps passait. L'idée du staré mourant ne l'avait pas quitté une minute depuis son départ du monastère. Dans le récit de Catherine Ivanovna figurait une circonstance qui l'intéressait fort. Quand la jeune fille avait parlé du petit écolier, fils du capitaine, qui courait en sanglotant à côté de son père,
l'idée était venue soudain à Alyosha que ce devait être le même qui l'avait mordu au doigt lorsqu'il lui demandait en quoi il l'avait offensé. Il en était maintenant presque sûr, sans savoir encore pourquoi. Ses préoccupations étrangères détournèrent son attention. Il résolut de ne plus penser au mal qu'il venait de faire, de ne pas se tourmenter par le repentir, mais d'agir. Tant pis pour ce qui pourrait arriver là-bas. Cette idée lui rendit tout son courage. En entrant dans la ruelle où demeurait Dmitri, il eut faim et tira de sa poche le petit pain qu'il avait pris chez son père. Il le mangea en marchant. Cela le réconforta. Dmitri n'était pas chez lui. Les maîtres de la maisonnette, un vieux menuisier, sa femme et son fils, regardèrent Alyosha d'un air soupçonneux. « Voilà déjà 3 jours qu'il ne passe pas la nuit ici. Il est peut-être parti quelque part, » répondit le vieux à ses questions. Alyosha comprit qu'il se conformait aux instructions reçues. Lorsqu'il demanda si Dmitri n'était pas chez Krouchenka ou de nouveau caché chez Foma, Alyosha parlait ainsi ouvertement à dessein. Tous le regardèrent d'un air craintif. « Il l'aime donc, il tienne son parti, » pensa-t-il. « Tant mieux. » Enfin, il découvrit dans la rue du lac la masure de la mère Kalmykov, délabrée et affaissée, avec 3 fenêtres sur la rue, une cour-salle au milieu de laquelle se tenait une vache. On entrait par la cour dans le vestibule. À gauche habitait la vieille propriétaire avec sa fille, également âgée, toutes deux sourdes à ce qu'il semblait. À la question plusieurs fois répétée « Où demeurait le capitaine ?», l'une d'elles, comprenant enfin qu'on demandait les locataires, lui désigna du doigt, à travers le vestibule, la porte qui menait à la plus belle pièce de l'isba. L'appartement du capitaine ne consistait en effet qu'en 7 pièces. Alyosha avait mis la main sur la poignée afin d'ouvrir la porte, quand il fut frappé par le silence complet qui régnait à l'intérieur. Il savait pourtant, d'après le récit de Catherine Ivanovna, que le capitaine avait de la famille. « Ils dorment tous, sans doute, ou bien ils m'ont entendu venir et ils attendent que j'ouvre. Mieux vaut frapper d'abord. » Il frappa. On entendit une réponse, mais au bout de 10 secondes seulement. « Qui est-ce ? » cria une grosse voix irritée. Alyosha ouvrit, franchit le seuil. Il se trouvait dans une salle assez spacieuse, mais fort encombrée de gens et de hardes. À gauche, il y avait un grand poêle russe. Du poêle à la fenêtre de gauche, une corde, tendue à travers toute la chambre, supportait 10 chiffons. De chaque côté se trouvait un lit avec des couvertures tricotées. Sur l'un d'eux, celui de gauche, 4 oreillers étagés, plus petits l'un que l'autre. Sur le lit de droite, on n'en voyait qu'un, fort petit. Plus loin, il y avait un espace restreint, séparé par un rideau ou un drap, fixé à une corde tendue en travers de l'angle. Derrière, apparaissait un lit improvisé sur un banc et une chaise placée auprès. Une table rustique, carrée, était installée vers la fenêtre du milieu. Les 3 fenêtres, aux carreaux couverts de moisissures verdâtres, étaient ternes et hermétiquement fermées, de sorte qu'on étouffait dans la pièce à demi-obscure. Sur la table, une poêle avec un reste d'œufs sur le plat, une tranche de pain entamée, un demi-litre d'eau-de-vie, presque vide de son contenu. Près du lit de gauche se tenait sur une chaise une femme, vêtue d'une robe d'indienne et qui avait l'air d'une dame. Elle était fort maigre, fort jaune. Ses joues creuses attestaient au premier coup d'œil son état maladif. Mais ce qui frappa surtout Alyosha, ce fut le regard de ses grands yeux bruns, interrogateurs et arrogants tout ensemble. À côté de la fenêtre de gauche se tenait debout une jeune fille, au visage ingrat, aux cheveux roux clairsemés, vêtue d'une manière pauvre, quoique très propre. Elle n'accorda au nouveau venu qu'une œillade dédaigneuse. À droite, également près du lit, était assise une personne du sexe féminin, une pauvre créature, jeune encore, d'une 20aine d'années, mais bossue et impotente, les pieds desséchés, comme on l'expliqua ensuite à Alyosha. On voyait ses béquilles dans un coin, entre le lit et le mur. Les magnifiques yeux de la pauvre fille se posèrent sur Alyosha avec douceur. Attablé et achevant l'omelette, on remarquait un personnage de 45 ans, de belle taille, de faible constitution, maigre, roux, et dont la barbe clairsemée ressemblait fort à un torchon de tille, défait. Cette comparaison, et surtout le mot de torchon, surgirent au premier coup d'œil dans l'esprit d'Alyosha. C'était lui, évidemment, qui avait répondu de l'intérieur, car il n'y avait pas d'autre homme dans la chambre. Quand Alyosha entra, le personnage se leva brusquement, s'essuya avec une serviette trouée et s'empressa à sa rencontre.
Un moine qui quête pour son monastère, il a trouvé à qui s'adresser,
proféra la jeune fille qui se tenait dans l'angle de gauche. L'individu qui était accouru au devant d'Alyosha pirouetta sur ses talons et lui répondit d'un ton saccadé.
Non, Varvara Nikolaïvna, ce n'est pas cela. Vous n'avez pas deviné.
Permettez-moi de vous demander, fit-il en se tournant vers Alyosha, ce qui vous a engagé à visiter cette retraite.
Alyosha le considéra avec attention. Ce personnage, qu'il voyait pour la première fois, avait quelque chose de pointu, d'irrité. Il était légèrement éméché, son visage reflétait une impudance caractérisée, et en même temps, chose étrange, une couardise visible. On devinait un homme longtemps assujetti, mais avide de faire des siennes. Ou mieux encore, un homme qui brûlerait d'envie de vous frapper, tout en craignant vos coups. Dans ses propos, dans l'intonation de sa voix plutôt perçante, on distinguait une sorte d'humour bizarre, tantôt méchant, tantôt timide, intermittent et de ton inégal. Il avait parlé de la retraite, en tremblant, les yeux écarquillés, et en se tenant si près d'Alyosha que celui-ci fit machinalement un pas en arrière. Le personnage portait un paletot de nankin, sombre, en fort mauvais état, rapiécé, taché. Son pantalon à carreaux très clair, comme on n'en porte plus depuis longtemps, d'une étoffe fort mince, fripée en bas, remontait au point de lui donner l'air d'un garçon qui a grandi.
« Je suis Alexeï Karamazov, » répondit Alyosha.
« Je le sais bien, » répartit l'autre, donnant à entendre qu'il connaissait l'identité de son visiteur. « Et moi, je suis le capitaine en second Sniegiryov. Mais il importe de savoir ce qui vous amène. »
« Je suis venu comme ça. Au fait, je voudrais vous dire un mot, en mon nom, si vous le permettez.
« En ce cas, voici une chaise. Veuillez vous asseoir, comme on disait dans les vieilles comédies. »
D'un geste prompt, le capitaine saisit une chaise libre, une simple chaise en bois, qu'il plaça presque au milieu de la chambre. Il en prit une autre pour lui et s'assit en face d'Alyosha. De nouveau, si près que leurs genoux se touchaient presque.
Nicolas Ilitch Sniegiryov, ex-capitaine en second de l'infanterie russe, avili par ses vices, mais pourtant capitaine. Toutefois, je me demande en quoi ai-je pu exciter votre curiosité, car je vis dans des conditions qui ne permettent guère de recevoir des visites.
Je suis venu pour cette affaire.
Pour quelle affaire ?
Interrompit le capitaine d'un ton impatient.
À propos de votre rencontre avec mon frère Dmitri, répliqua Alyosha gêné.
De quelle rencontre? Ne serait-ce pas au sujet du torchon de tille?
Et il s'avança tellement cette fois que ses genoux heurtèrent ceux d'Alyosha. Ses lèvres serrées formaient une ligne mince.
Quel torchon de tille? Murmura Alyosha.
« C'est pour se plaindre de moi, papa, qu'il est venu !» retentit une voix derrière le rideau, une voix déjà connue d'Alyosha, celle du garçon de tantôt. « Je lui ai mordu le doigt aujourd'hui !»
Le rideau s'écarta, et Alyosha aperçut son récent ennemi,
dans le coin sous les icônes, sur un lit formé d'un banc et d'une chaise. L'enfant gisait, recouvert de son petit pardessus et d'une vieille couverture ouatée. À en juger par ses yeux brûlants, il devait avoir la fièvre. Intrépide, il regardait Alyosha avec l'air de dire « Ici, tu ne peux rien me faire !»«
Comment ? Quel doigt a-t-il mordu ?» sursauta le capitaine. « C'est le vôtre ?»«
Oui, le mien. Tantôt, il se battait à coups de pierre dans la rue avec ses camarades. Ils étaient 6 contre lui. Je me suis approchée. Il m'en a jeté une, puis une autre à la tête. Et comme je lui demandais ce que je lui avais fait, il s'est élancé et m'a mordu cruellement au doigt. J'ignore pourquoi.
« Je vais le fouetter !»
s'exclama le capitaine qui bondit de sa chaise.
« Mais je ne me plains pas, je vous raconte seulement ce qui s'est passé. Je ne veux pas que vous le fouettiez. D'ailleurs, je crois qu'il est malade. Et vous pensiez que j'allais le faire? Que j'allais empoigner Ilusha et le fouetter devant vous? Il vous faut ça tout de suite ?»
proféra le capitaine, se tournant vers Alyosha avec un geste menaçant, comme s'il voulait se jeter sur lui.
« Je plains votre doigt, monsieur. Mais ne voulez-vous pas qu'avant de fouetter Ilusha, je me tranche les 4 doigts sous vos yeux, avec ce couteau, pour votre juste satisfaction? Je pense que 4 doigts vous suffiront. Vous ne réclamerez pas le 5e pour apaiser votre soif de vengeance. »
Il s'arrêta soudain, comme suffoqué. Chaque trait de son visage remuait et se contractait. Son regard était des plus provocants. Il était égaré.
« Maintenant j'ai tout compris, » dit Alyosha d'un ton doux et triste, sans se lever. « Ainsi vous avez un bon fils, il aime son père, et s'est jeté sur moi comme étant le frère de votre offenseur.
Je comprends à présent, » répéta-t-il songeur. « Mais mon frère, Dmitri, regrette son acte, je le sais, et s'il peut venir chez vous, ou, encore mieux, vous rencontrer à la même place, » « il vous demandera pardon, devant tout le monde, si vous le désirez. »«
C'est-à-dire qu'après m'avoir tiré la barbe, il me fait des excuses. Il croit ainsi me donner pleine et entière satisfaction, n'est-ce pas ?»«
Non, non, au contraire, il fera tout ce qui vous plaira, et comme il vous plaira. »«
De sorte que si je priais son Altesse Sérénissime de s'agenouiller devant moi, dans ce même cabaret, le cabaret... à la capitale, comme on l'appelle, ou sur la place, il le ferait ?
Oui, il le ferait.
Vous me touchez jusqu'aux larmes. La générosité de votre frère me confond. Permettez-moi de vous présenter ma famille. Mes 2 filles et mon fils, ma portée. Si je meurs, qui les aimera ? Et tant que je vis, qui m'aimera avec tous mes défauts, sinon eux ?
Le Seigneur a bien fait les choses pour chaque homme de mon espèce, car même un homme de ma sorte doit être aimé par un être quelconque.
« Ah, c'est parfaitement vrai !» s'exclama Alyosha. « Trêve de pitrerie, vous nous bafouez devant le premier imbécile venu !»
s'écria soudain la jeune fille qui se tenait vers la fenêtre en s'adressant à son père, la mine méprisante.
« Attendez un peu, Varvara Nikolaïevna, permettez-moi de continuer mon idée !»
lui cria son père d'un ton impérieux, tout en la regardant avec approbation.
« Tel est son caractère, » dit-il, se retournant vers Alyosha.
Et dans la nature entière, il ne voulait rien bénir. C'est-à-dire, il faudrait mettre au féminin. Elle ne voulait rien bénir.
« Et maintenant, permettez-moi de vous présenter à mon épouse. » Irène Petrovna, une dame impotente de 43 ans. Elle marche, mais fort peu. Elle est de basse condition. Irène Petrovna, faites-vous belle que je vous présente Alexis Fiodorovitch.
Il le prit par le bras, et avec une force dont on ne l'eût pas cru capable, il le souleva.
On vous présente à une dame, il faut vous lever. Ce n'est pas ce Karamazov, maman, qui... etc. Mais son frère, reluisant de vertus pacifiques. Permettez, Irène Petrovna, permettez, maman, de vous baiser d'abord la main.
Il baisa la main de sa femme avec respect, avec tendresse même. La jeune fille, vers la fenêtre, tournait le dos à cette scène avec indignation. Le visage arrogant et interrogateur de la mère exprima soudain une grande affabilité.
« Bonjour, asseyez-vous, monsieur Tchernomazov, » proféra-t-elle.
« Karamazov, maman, Karamazov. Nous sommes de basse condition, » souffla-t-il de nouveau.
« Eh, Karamazov, ou autrement, peu importe, moi je dis toujours Tchernomazov.
Asseyez-vous. Pourquoi vous êtes-il soulevé? Une dame sans pieds qu'il dit, j'en ai des pieds, mais ils sont enflés comme des seaux, et moi je suis desséché. Autrefois, j'étais d'une grosseur énorme, et maintenant on dirait que j'ai avalé une aiguille. »
« Nous sommes de basse condition. »«
De bien basse, » répéta le capitaine.
« Papa, ah, papa !» prononça soudain la bossue, demeurée jusqu'alors silencieuse et qui se couvrit brusquement les yeux de son mouchoir.
« Bouffon !»
lança la jeune fille vers la fenêtre.
« Voyez ce qui se passe chez nous, » reprit la mère en désignant ses filles. « C'est comme si des nuages passaient. Ils passent et notre musique reprend. Auparavant, quand nous étions militaires, il nous venait beaucoup d'hôtes comme vous.
« Je ne fais pas de comparaison, monsieur. Il faut aimer tout le monde. » La femme du diacre vient parfois et dit « Alexandre Alexandrovitch est un brave homme, mais Anastasie Petrovna est un suppôt de Satan. »
« Eh bien, que je lui réponds, ça dépend qui on aime, tandis que toi, tu n'es qu'un petit tas, mais infect. Toi, qu'elle me dit, il faut te serrer la vis. »
« Ah, noiraude, à qui viens-tu faire la leçon ?»
« Moi, dit-elle, je laisse entrer l'air pur, et toi le mauvais air. »«
Demande, que je lui réponds, à messieurs les officiers, si l'air est mauvais chez moi. » J'avais cela sur le cœur, quand tantôt, assise comme je suis maintenant, j'ai vu entrer ce général, qui était venu ici pour Pâques.
« Eh bien, lui dis-je, votre excellence, une dame noble peut-elle laisser entrer l'air du dehors ?»«
Oui, répondit-il. » « Vous devriez ouvrir la porte ou le vasistas, car l'air n'est pas pur chez vous. »«
Et tous sont pareils. Pourquoi en veulent-ils à mon air? Les morts sont encore plus mauvais. Je ne corromps pas l'air chez vous. Je me ferai faire des souliers et je m'en irai. Mes enfants, n'en veuillez pas à votre mère. Nikolaï Ilitch, mon ami, ai-je cessé de te plaire? Je n'ai plus qu'Ilyusha pour m'aimer quand il revient de l'école. Hier, il m'a apporté une pomme. » Pardonnez à votre mère, mes bons amis, pardonnez à une pauvre délaissée. En quoi mon air vous dégoûte-t-il?
La pauvre démente éclata en sanglots. Ses larmes ruisselaient. Le capitaine se précipita vers elle.
Maman, chère maman, assez, tu n'es pas délaissée. Tous t'aiment et t'adorent.
Il recommença à lui baiser les mains et se mit à lui caresser le visage, à essuyer ses larmes avec une serviette. Il avait lui-même les yeux humides. C'est du moins ce qu'il sembla à Alyosha, vers qui il se tourna soudain pour lui dire d'un ton courroucé en désignant la pauvre démente.
« Eh bien, vous avez vu et entendu ?»«
Je vois et j'entends, » murmura Alyosha.
« Papa, papa, comment peux-tu ? Laisse-le, papa !» cria le garçon dressé sur son lit avec un regard ardent. « Assez fait le pitre comme ça. Laissez donc vos stupides manigances qui ne mènent jamais à rien !»
cria de son coin Varvara Nikolaïevna, exaspérée. Elle tapa même du pied.
« Vous avez tout à fait raison cette fois de vous mettre en colère, Varvara Nikolaïevna, et je vais vous donner satisfaction. Couvrez-vous, Alexei Fyodorovitch, je prends ma casquette et sortons. J'ai à vous parler sérieusement, mais pas ici. » Cette jeune personne assise, c'est ma fille Nina Nikolaïevna. J'ai oublié de vous la présenter. Un ange incarné, descendu chez les mortels. Si tant est que vous puissiez comprendre cela.
Le voilà tout secoué, comme s'il avait des convulsions, continua Varvara Nikolaïevna, indignée.
Celle qui vient de taper du pied et de me traiter de pitre, c'est aussi un ange incarné. Elle m'a donné le nom qui convient. « Allons, Alexis Fyodorovitch, il faut en finir. »
et prenant Alyosha par le bras, il le conduisit dehors. Chapitre 7. Et au grand air. L'air est pur ici, tandis que dans mes appartements, il ne l'est guère, sous tous les rapports. Marchons un peu, monsieur. Je voudrais bien que ma personne vous intéressât.
J'ai une importante communication à vous faire, déclara Alyosha. Seulement, je ne sais par où commencer.
Je m'en doutais bien. Vous n'alliez pas vous déranger uniquement pour vous plaindre de mon garçon, n'est-ce pas? À propos du petit, il faut que je vous décrive la scène. Je n'ai pas pu tout vous raconter là-bas. Voyez-vous, il y a 8 jours, le torchon de Tille était plus fourni. C'est de ma barbe que je parle. On l'a surnommé ainsi, les écoliers surtout. Eh bien, quand votre frère s'est mis à me traîner par la barbe, le long de la place, à me faire des violences pour une bagatelle, c'était justement l'heure où les écoliers sortaient de classe. Et parmi eux, Ilyusha. Dès qu'il m'aperçut dans cette posture, il s'élança vers moi en criant « Papa, papa !» Il s'accroche à moi, m'étreint, veut me dégager, crie à mon agresseur « Lâchez-le, lâchez-le, c'est mon papa, pardonnez-lui !» Avec ses petits bras, il le saisit et lui baisa la main, cette même main qui... Je me rappelle l'expression de son visage à ce moment. Je ne l'oublierai jamais. « Je vous jure, s'écria Alyosha, que mon frère vous exprimera un complet repentir de la façon la plus sincère, fût-ce à genoux sur cette même place. Je l'y obligerai, sinon il cessera d'être mon frère. » Ah, c'est encore à l'état de projet. Cela ne vient pas de lui, mais de la noblesse de votre cœur généreux. Vous auriez dû le dire tout de suite. Dans ce cas, permettez-moi de vous exposer l'esprit chevaleresque dont votre frère a fait preuve ce jour-là. Il s'arrêta de me traîner par la barbe et me lâcha. « Tu es officier, me dit-il, et moi aussi. Si tu peux trouver comme témoin un homme comme il faut, envoie-le-moi, je te donnerai satisfaction, bien que tu sois un coquin. » Et voilà, un esprit vraiment chevaleresque, n'est-ce pas? Nous nous éloignâmes avec Ilyusha, et cette scène de famille y restait à jamais gravée dans la mémoire du pauvre petit. À quoi nous sert d'appartenir à la noblesse? D'ailleurs, jugez-en vous-même. Vous sortez de mes appartements. Qu'avez-vous vu? 3 femmes, dont l'une est impotente et faible d'esprit, l'autre impotente et bossue. La 3e, valide, mais trop intelligente. C'est une étudiante. Elle brûle de retourner à Pétersbourg, découvrir sur les bords de la Neva les droits de la femme russe. Je ne parle pas d'Ilyusha, il n'a que 9 ans. Il est entièrement seul, car si je meurs, qu'adviendra-t-il de mon foyer? Je vous le demande. Dans ces conditions, si je provoque votre frère en duel et qu'il me tue, qu'arrivera-t-il? Que deviendront-ils, eux tous? S'il m'estropie seulement, ce sera encore pis. Je serai incapable de travailler. Mais il faudra manger. Qui me nourrira? Qui les nourrira tous? Faudra-t-il envoyer tous les jours Ilyusha demander l'aumône au lieu d'aller à l'école? Voilà, monsieur, ce que signifie pour moi une provocation en duel. C'est une absurdité, rien de plus. Il vous demandera pardon. Il se jettera à vos pieds au beau milieu de la place, s'écria de nouveau Alyosha, le regard enflammé. Je voulais la signer, continua le capitaine. Mais ouvrez notre code. Puis-je m'attendre à recevoir une juste satisfaction de mon offenseur? Sur ce, Agrafena Alexandrovna m'a fait venir et menacer. « Si tu portes plainte, je m'arrangerai à faire constater publiquement qu'il t'a châtié de ta friponnerie, et alors c'est toi qu'on poursuivra. » Or, Dieu seul sait qui est l'auteur de cette friponnerie, et sous les ordres de qui j'ai agi en comparse. N'est-ce pas d'après ses instructions et celles de Fiodor Pavlovitch? De plus, ajouta-t-elle, je te chasserai pour tout de bon, et tu ne gagneras plus rien à mon service. Je le dirai aussi à mon marchand. C'est ainsi qu'elle appelle son vieux. De sorte que lui aussi te renverra également. Et je me dis, si ce marchand me renvoie aussi, comment pourrais-je gagner ma vie? Car il ne me reste que ces 2 protecteurs, vu que votre père m'a retiré sa confiance pour un autre motif, et veut même, muni de mes reçus, me traîner en justice. Pour ces raisons, je me suis tenue tranquille, et vous avez vu ma retraite. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'Ilyusha vous a fait bien du mal en vous mordant?
Je ne pouvais pas entrer dans des détails en sa présence.
Oui, très mal. Il était très irrité. Il a vengé votre offense sur moi en qualité de Karamazov. Je le comprends maintenant.
Mais si vous l'aviez vu se battre à coups de pierre avec ses camarades, c'est très dangereux, ils peuvent le tuer. Les enfants sont stupides. Une pierre a vite fait de fracasser la tête.
Oui, il en a reçu une. Pas à la tête, mais à la poitrine, au-dessus du cœur. Il a un bleu. Il est rentré en larmes, geignant. Et le voilà malade.
Savez-vous qu'il attaque les autres le premier? Il est devenu mauvais à cause de vous. Ses camarades racontent qu'il a donné tantôt un coup de canif dans le côté au jeune Krasotkin.
Je le sais. Le père était fonctionnaire ici. Et cela peut nous attirer des désagréments.
Je vous conseillerais, continua avec chaleur Alyosha, de ne pas l'envoyer à l'école pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il se calme et que sa colère passe.
La colère, reprit le capitaine, c'est bien ça, une grande colère dans un petit être.
Vous ne savez pas tout. Permettez-moi de vous expliquer les choses en détail.
Après l'événement, les écoliers se mirent à le taquiner, en l'appelant « torchon de tille ».
Cet âge est sans pitié. Pris séparément, ce sont des anges, mais tous ensemble sont impitoyables, surtout à l'école. Ils le persécutaient, et un noble sentiment s'éveilla en Ilyusha. Un garçon ordinaire, faible comme lui, se fût résigné. Il aurait eu honte de son père, mais lui s'est dressé contre tous, pour son père, pour la vérité, pour la justice. Car ce qu'il a enduré, depuis qu'il a baisé la main de votre frère en lui criant « Pardonnez à papa, pardonnez à papa !» Dieu seul et moi le savons. Et ainsi nos enfants, pas les vôtres, les nôtres, les enfants des mendiants méprisés, mais nobles, apprennent à connaître la vérité dès l'âge de 9 ans. Comment les riches l'apprendraient-ils? Ils ne pénètrent jamais ces profondeurs. Tandis que mon Ilyusha a sondé toute la vérité, à la minute où sur la place il baisait la main qui me frappait. Elle est entrée en lui, cette vérité. Elle l'a meurtri pour toujours. Proféra avec passion le capitaine, l'air égaré, en se frappant la main gauche de son poing, comme s'il voulait montrer matériellement la meurtrissure faite à Ilyusha par la vérité. Ce jour-là, il eut la fièvre et le délire pendant la nuit. Il resta silencieux toute la journée. Je remarquai qu'il m'observait de son coin, faisant semblant d'apprendre ses leçons. Mais ce n'était point les leçons qui l'occupaient. Le lendemain, je m'enivrai de chagrin, si bien que j'ai oublié beaucoup de choses. Maman aussi se mit à pleurer. Je l'aime beaucoup. Alors, de douleur, je me saoulai avec mes derniers sous. Ne me méprisez pas, monsieur. En Russie, les pires ivrognes sont les meilleurs des gens, et réciproquement. J'étais couchée et ne pensais guère à Ilyusha. Mais ce même jour, les gamins s'égayèrent à ses dépens, dès le matin. « Hé, torchon de tille !» lui criait-on. « On a traîné ton père par sa barbe hors du cabaret. Toi, tu courais à côté en demandant grâce. » C'était le surlendemain. Il rentra de l'école pâle et défait. « Qu'as-tu ? » lui dis-je. Il ne répondit rien. Impossible de causer à la maison. Sa mère et ses sœurs s'en seraient mêlées tout de suite. Les jeunes filles avaient appris l'affaire dès le premier jour. Varvara Nikolaïevna commençait déjà à grogner. « Bouffon, pitre, pouvez-vous faire quelque chose de sensé ?»« C'est vrai, dis-je, Varvara Nikolaïevna, pouvons-nous faire quelque chose de sensé ?» Je mentirai ainsi pour cette fois. Dans la soirée, j'allais me promener avec le petit. Il faut vous dire que depuis quelque temps, nous allons nous promener tous les soirs, par le même chemin que voici, jusqu'à cette énorme pierre isolée là-bas près de la haie, où commencent les pâtis communaux. Un endroit désert et charmant. Nous cheminions la main dans la main comme d'habitude. Il a une toute petite main, aux doigts minces, glacés, car il souffre de la poitrine.
« Papa ! » fit-il. « Papa ! » !»«
Eh bien ! » lui dis-je, je voyais ses yeux étinceler. « Comme il t'a traité, papa !»«
Que faire, Ilyusha ?»«
Ne fais pas la paix avec lui, papa, garde-t'en bien. Mes camarades racontent qu'il t'a donné 10 roubles pour ça. »
« Non, mon petit, pour rien au monde je n'accepterai de l'argent de lui maintenant. »
Il se mit à trembler, me saisit la main dans les siennes, m'embrassa.
« Papa, provoque-le en duel. À l'école, on me taquine en disant que tu es lâche, que tu ne te battras pas, mais que tu accepteras de lui 10 roubles. »«
Je ne puis le provoquer en duel, Ilyusha, » lui répondis-je, et je lui exposai brièvement ce que je viens de vous dire à ce sujet. Il m'écouta jusqu'au bout.
« Papa, » dit-il pourtant, « ne fais pas la paix avec cet homme. Quand je serai grand, je le provoquerai moi-même et je le tuerai. »
Ses yeux brûlaient d'un éclat intense. Malgré tout, j'étais son père, et il fallut lui dire un mot de vérité. « C'est un péché, » expliquai-je, « de tuer son prochain, même en duel. »
« Papa, je le terrasserai une fois grand, je lui ferai sauter son sabre des mains, et je me jetterai sur lui en brandissant le mien, et je lui dirai « Je pourrais te tuer, mais je te pardonne. »
Voyez, monsieur, voyez quel travail s'est opéré dans sa petite tête durant ces 2 jours. Il ne fait que penser à la vengeance, et il a dû en parler dans son délire. Quand avant-hier il est revenu de l'école, cruellement battu, j'ai tout appris. Vous avez raison, il n'y retournera plus. Il se dresse contre la classe entière, il les provoque tous. Il s'est exaspéré, son cœur brûle de haine, j'ai peur pour lui. Nous retournâmes nous promener.
« Papa, » me demanda-t-il, « les riches sont les plus forts en ce monde ?»«
Oui, Ilyusha, il n'y a pas plus puissant que le riche. »«
Papa, » dit-il, « je deviendrai riche, je serai officier et je battrai tous les ennemis. Le tsar me récompensera, je reviendrai auprès de toi, et alors personne n'osera. »
Après un silence, il reprit, les lèvres tremblantes comme auparavant.
« Papa, quelle vilaine ville que la nôtre !»«
Oui, Ilyusha, c'est une vilaine ville. »
« Papa, allons nous établir dans une autre où l'on ne nous connaît pas. »
« Je veux bien, Ilyusha. Allons-y. Seulement, il faut amasser de l'argent. » Je me réjouissais de pouvoir ainsi le distraire de ses sombres pensées. Nous nous mîmes à faire des projets sur l'installation dans une autre ville, l'achat d'un cheval et d'une charrette.
« Ta maman et tes sœurs monteront dedans, nous les couvrirons bien. Nous-mêmes, nous marcherons à côté. Tu monteras de temps en temps, tandis que j'irai à pied, car il faut ménager le cheval. C'est ainsi que nous voyagerons. »
Il fut enchanté, surtout d'avoir un cheval qui le conduirait. Comme vous le savez, un petit garçon russe ne voit rien de plus beau qu'un cheval. Nous bavardâmes longtemps. Dieu soit loué, pensais-je, je l'ai distrait et consolé. Mais hier, il est rentré de l'école fort sombre. Le soir, à la promenade, il ne disait rien. Le vent s'éleva, le soleil disparut, on sentait l'automne et il faisait déjà sombre. Nous étions tristes. « Eh bien, mon garçon, comment allons-nous faire nos préparatifs ?» Je pensais reprendre la conversation de la veille. Pas un mot. Mais ses petits doigts tremblaient dans ma main. « Ça va mal, me dis-je, il y a du nouveau. » Nous arrivâmes, comme maintenant, jusqu'à cette pierre. Je m'assis dessus. On avait lancé des cerfs-volants qui claquaient au vent. Il y en avait bien une trentaine. C'est maintenant la saison. « Nous devrions, nous aussi, Ilyusha, lancer le cerf-volant de l'année dernière. Je le réparerai. Qu'en as-tu fait ?» Il ne disait toujours rien et détournait le regard. Soudain, le vent se mit à bruire, soulevant du sable. Il eut un élan vers moi, ses 2 bras passés autour de mon cou et m'étreignit. « Voyez-vous, monsieur, quand les enfants sont taciturnes et fiers, ils retiennent longtemps leurs larmes, mais lorsqu'elles jaillissent lors d'un grand chagrin, elle ne coule pas, elle ruisselle. Ses pleurs brûlants m'inondèrent le visage. Il sanglotait, secoué de convulsions, me serrait contre lui.
« Papa » criait-il, « mon cher papa, comme il t'a humilié !»
Alors les sanglots me prirent à mon tour, et nous étions là tous 2 à gémir, enlacés sur cette pierre. Personne ne nous voyait alors, excepté Dieu. Peut-être m'en tiendra-t-il compte. « Remerciez votre frère, Alexis Fiodorovitch. Non, je ne fouetterai pas mon garçon pour votre satisfaction. » Il termina de la même façon bizarre et entortillée que tout à l'heure. Pourtant, Alyosha, touché jusqu'aux larmes, sentait que cet homme avait confiance en lui et qu'il n'eût pas fait cette confidence à quelqu'un d'autre. Ah, comme je voudrais faire la paix avec votre garçon, s'exclama-t-il. Si vous vous en chargiez.
Certainement, murmura le capitaine.
Mais maintenant, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Écoutez, poursuivit Alyosha. J'ai une commission à vous faire. Mon frère, ce Dmitri, a insulté aussi sa fiancée, une noble fille dont vous avez dû entendre parler. J'ai le droit de vous révéler cette insulte, je dois même le faire, car ayant appris l'offense que vous avez subie et votre situation malheureuse, elle m'a chargé tantôt de vous remettre ce secours, de sa part seulement, pas au nom de Dmitri, qui l'a abandonné, ni de moi, de son frère, ni de personne, mais uniquement de sa part à elle. Elle vous supplie d'accepter son aide. Vous avez été offensés tous deux par le même homme. Elle s'est souvenue de vous seulement lorsqu'elle eut souffert de Dmitri une injure tout aussi grave que la vôtre. C'est donc une sœur qui vient en aide à un frère. Elle m'a précisément chargé de vous convaincre d'accepter ces 200 roubles de sa part, comme d'une sœur qui connaît votre gêne. Personne ne le saura. Nul commérage malveillant ne sont à redouter. Voici ces 200 roubles, et je vous le jure, vous devez les accepter, sinon il n'y aurait que des ennemis dans le monde. Mais il y a aussi des frères. Vous avez l'âme noble, vous devez le comprendre. » Et Alyosha lui tendit 2 billets de 100 roubles tout neufs. Tous deux se trouvaient alors justement près de la grande pierre, près de la haie. Il n'y avait personne alentour. Les billets parurent faire au capitaine une impression profonde. Il tressaillit, mais ce fut d'abord uniquement de surprise. Il ne s'attendait point à pareil dénouement et n'avait jamais rêvé d'une aide quelconque. Il prit les billets et pendant presque une minute fut incapable de répondre. Une expression nouvelle apparut sur son visage. « C'est pour moi, tant d'argent, 200 roubles ? Juste ciel ! « Depuis 4 ans, je n'avais pas vu tant d'argent, seigneur, et elle dit qu'elle est une sœur. C'est vrai? C'est bien vrai? Je vous jure que tout ce que j'ai dit est la pure vérité, » s'écria Alyosha. Le capitaine rougit.
« Écoutez, mon cher monsieur, écoutez. Si j'accepte, ne serais-je pas un lâche? À vos yeux, Alexis Fiodorovitch, ne le serais-je pas? Écoutez, écoutez !» répétait-il à chaque instant en touchant Alyosha. « Vous me persuadez d'accepter sous le prétexte que c'est une sœur qui l'envoie. Mais en vous-même, n'éprouverez-vous pas du mépris pour moi, si j'accepte, hein ?»«
Non, 1000 fois non, je vous le jure sur mon salut, et personne ne le saura jamais, sauf nous. Vous, moi, elle, et encore une dame, sa grande amie. »
« Qu'importe la dame. Écoutez, Alexis Fiodorovitch, écoutez. C'est indispensable, car vous ne pouvez même pas comprendre ce que représentent pour moi ces 200 roubles. » poursuivit le malheureux, gagné peu à peu par une exaltation farouche, et s'exprimant avec une grande hâte, comme s'il appréhendait qu'on ne le laissât pas tout dire. « À part le fait que cet argent provient d'une source honnête, d'une sœur aussi respectée, « savez-vous que je puis soigner maintenant la mère et ma petite Nina, mon angélique bossu? Le docteur Exenstub est venu chez moi par bonté d'âme. Il les a examinées 1 heure entière. « Je n'y comprends rien, » m'a-t-il dit. « Pourtant, l'eau minérale qu'il lui a prescrite lui fait certainement du bien. Il lui a aussi ordonné des bains de pied avec des remèdes. L'eau minérale coûte 30 copecs. Il faut en boire peut-être 40 bouteilles. » J'ai pris l'ordonnance et l'ai mise sur la tablette au-dessous de l'icône. Elle y reste. Pour Nina, il a prescrit des bains chauds dans une solution spéciale, tous les jours, matin et soir. Comment pourrions-nous suivre un pareil traitement, logés comme nous sommes, sans domestique, sans aide, ni eau ni ustensiles? La pauvre Nina est percluse de rhumatisme, je ne vous l'avais pas dit. La nuit, tout le côté lui fait mal, elle souffre le martyr. Mais croiriez-vous que cet ange se raidit pour ne pas nous inquiéter, qu'elle se retient de gémir pour ne pas nous réveiller? Nous mangeons ce qui nous tombe sous la main. Eh bien, elle prend le dernier morceau, bon à jeter au chien. Je ne mérite pas ce morceau, je vous prive, je suis à votre charge. Voilà ce que veut exprimer son regard céleste. Nous la servons et cela lui pèse. Je ne mérite pas ses égards, je suis une impotente, une bonne à rien.
Elle ne les mérite pas, quand sa douceur angélique est une bénédiction pour tous. Sans sa douce parole, la maison serait un enfer. Elle a attendri jusqu'à Varvara. Ne la condamnez pas non plus, celle-là. C'est aussi un ange. Elle aussi est malheureuse. Elle est arrivée chez nous en été avec 16 roubles, gagnée à donner des leçons et destinée à payer son retour à Pétersbourg au mois de septembre, c'est-à-dire maintenant. Or, nous avons mangé son argent et elle n'a plus de quoi s'en retourner. Voilà ce qui en est. D'ailleurs, elle ne pourrait pas partir, car elle travaille pour nous comme un galérien. Nous en avons fait une bête de somme. Elle vaque à tout. C'est elle qui raccommode, lave, balaie. Elle couche la mère. Et la mère est capricieuse, pleurarde. Vous comprenez, une folle. Maintenant, avec ces 200 roubles, je puis prendre une domestique, Alexei Fiodorovitch. Je puis soigner ces chères créatures. J'enverrai l'étudiante à Pétersbourg, j'achèterai de la viande, j'établirai un nouveau régime. Seigneur, mais c'est un rêve! Alyosha était ravi d'avoir apporté tant de bonheur et de voir que le pauvre diable voulait bien consentir à être heureux. Attendez, Alexei Fiodorovitch, attendez! Reprit de plus belle le capitaine, se cramponnant à un nouveau rêve. Savez-vous qu'avec Ilyusha, nous réaliserons peut-être maintenant notre projet? Nous achèterons un cheval et une charrette, un cheval noir, il l'a demandé expressément, et nous partirons, comme nous l'avons décidé avant-hier. Je connais un avocat dans la province de K, un ami d'enfance. On m'a fait savoir par un homme sûr que si j'arrivais là-bas, il me donnerait une place de secrétaire. Qui sait, il me la donnera peut-être. Alors la mère et Nina monteraient dedans, Ilyusha conduirait, moi j'irais à pied. Toute la famille serait ainsi transportée. Seigneur, si je pouvais seulement recouvrer une créance douteuse, cela suffirait même pour ce voyage.
Cela suffira, cela suffira, s'écria Alyosha.
Catherine Ivanovna vous enverra encore de l'argent, autant que vous en voudrez. J'en ai aussi. Prenez ce qu'il vous faut. Je vous l'offre comme à un frère, comme à un ami. Vous me le rendrez plus tard, car vous deviendrez riche. Vous ne pourrez jamais imaginer rien de mieux que ce déplacement. Ce serait le salut, surtout pour votre garçon. Vous devriez partir plus vite, avant l'hiver, avant les froids. Vous nous écririez de là-bas, nous resterions frères. Non, ce n'est pas un songe.
Alyosha aurait voulu l'étreindre tant il était content. Mais après l'avoir regardé, il s'arrêta brusquement. Le capitaine, le cou et les lèvres tendues, le visage blême et exalté, remuait les lèvres comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son ne sortait.
« Qu'avez-vous ? » s'enquit Alyosha dans un tressaillement subi. « Alexei Fiodorovitch, je... vous... » murmura le capitaine par saccades en le fixant d'un air étrange et farouche, l'air d'un homme qui va s'élancer dans le vide, en même temps que ses lèvres souriaient.
« Je... vous... voulez-vous que je vous montre un tour de passe-passe »
chuchota-t-il soudain, d'un ton ferme, rapide.
« Quel tour ?»«
Vous allez voir !» répéta le capitaine, la bouche crispée, l'œil gauche clignotant, le regard rivé sur Alyosha.
« Qu'avez-vous donc? De quel tour parlez-vous ? »
s'écria Alyosha, effrayé pour de bon.
« Le voici, regardez !»
vociféra le capitaine. Et, lui montrant les 2 billets que durant ses discours il avait tenus entre le pouce et l'index, il les saisit avec rage et les froissa dans son poing serré.
« Vous avez vu ? Vous avez vu ? »
cria-t-il, blême, frénétique. Il leva le poing et de toute sa force jeta les 2 billets chiffonnés sur le sable.
« Avez-vous vu ? »
hurla-t-il de nouveau en les montrant du doigt.
« Eh bien, voilà !»
Il se mit à les fouler sous son talon avec un acharnement sauvage. Il haletait et s'exclamait à chaque coup.
« Voilà ce que j'en fais de votre argent ! Voilà ce que j'en fais !»
Soudain, il bondit en arrière et se dressa devant Alyosha. Toute sa personne respirait une fierté indicible.
« Allez dire à ceux qui vous ont envoyé que le torchon de Tille ne vend pas son honneur »
s'écria-t-il, le bras tendu. Puis il tourna rapidement les talons et se mit à courir. Il n'avait pas fait 5 pas qu'il se retourna vers Alyosha en lui faisant de la main un signe d'adieu. Au bout de 5 autres pas, il se retourna de nouveau. Cette fois, son visage n'était plus crispé par le rire, mais secoué par les larmes. Il bredouilla d'un ton larmoyant, saccadé. « Qu'aurais-je dit à mon garçon si j'avais accepté la rançon de notre honte ?» Après quoi il reprit sa course, cette fois sans se retourner. Alyosha le suivit des yeux avec une indicible tristesse. Il comprenait que jusqu'au dernier moment, le malheureux ne savait pas qu'il froisserait et jetterait les billets. Alyosha ne voulut ni le poursuivre ni l'appeler. Quand le capitaine fut hors de vue, il ramassa les 2 billets froissés, aplatis, enfoncés dans le sable, mais encore intacts. Ils craquèrent même quand Alyosha les déploya et les déplissa. Après les avoir pliés, il les mit dans sa poche et s'en fut rendre compte à Catherine Ivanovna du résultat de sa démarche.